La vagabonde, le monde est sur vos ondes.
Bonjour, vous écoutez La Vagabonde pour découvrir notre actualité culturelle. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Philippe Combes, un astrophysicien. Il nous présentera une conférence ce samedi 20 avril à Juvinas. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour Maë.
J'ai rapidement dit que vous étiez astrophysicien, mais c'est peu pour comprendre quel est réellement votre travail. Alors en quoi consiste votre métier ?
Ça consiste à étudier les objets solides du système solaire, c'est-à-dire les planètes, leurs satellites, comme la Lune terrestre ou les satellites de Mars, de Jupiter, les comètes, les astéroïdes, et aussi parfois les météorites.
Alors, j'ai appris que vous êtes chercheur, mais ça veut dire quoi être chercheur ?
Cela veut dire que nous faisons des analyses, des observations, des surfaces planétaires, et souvent pour la première fois, et que nous publions dans des magazines spécialisés, des magazines scientifiques, qui sont revus par des pairs, c'est-à-dire par d'autres chercheurs. Et c'est comme ça que la recherche avance. Nos analyses consistent à envoyer des sondes spatiales autour des objets qui nous intéressent, donc les planètes, les satellites, et de faire des mesures par spectrométrie, qui nous permettent d'analyser la composition de la surface de ces planètes, et ensuite de les comparer à des échantillons rocheux ou de météorites que l'on récolte sur Terre. Et c'est cette comparaison qui nous permet de mieux connaître le système solaire, son évolution, son passé et peut-être aussi son avenir.
Alors, vous parlez d'envoyer des sondes, comment ça se passe ? Vous commandez une sonde particulière, vous avez une équipe avec vous qui se charge de l'envoyer, de la contrôler, comment ça se passe précisément ?
Alors, généralement, les programmes spatiaux sont la contribution de plusieurs États, donc de plusieurs agences spatiales, donc ce sont en général des grands programmes. Moi, je ne suis qu'un petit maillon de la chaîne. Il y a beaucoup d'ingénieurs, de techniciens qui conçoivent et construisent les sondes et les instruments. En tant que scientifique, je peux parfois contribuer à la conception d'un instrument. Et une fois que l'instrument est opérationnel, même s'il n'est pas encore lancé, on peut aussi participer à certains tests au sol avant que la sonde ne soit envoyée. Il y a plusieurs équipes dans une mission spatiale. Il y a l'équipe des ingénieurs qui pilote la sonde à distance. Il y a l'équipe scientifique de la sonde elle-même, qui en général comprend plusieurs instruments. Ce sont les scientifiques qui ont la vue globale de l'ensemble de la mission. Et puis il y a aussi des équipes pour chaque instrument qui sont dans la mission spatiale. Un instrument, ça peut être une caméra à haute résolution pour observer les détails de la surface, la topographie, la rugosité de la surface. Il peut y avoir des radars, il peut y avoir des spectromètres, ce qui est ma spécialité. Plein d'instruments peuvent être montés à bord d'une sonde. Donc il y a en général une équipe de scientifiques par instrument. Et donc en général, je fais partie d'une équipe pour les spectromètres.
Ok, alors tout simplement, qu'est-ce que c'est un spectromètre ?
Alors, il y a plusieurs sortes de spectromètres. Le spectromètre que j'utilise en général, c'est un spectromètre qui analyse la lumière du Soleil, qui est réfléchie par la surface des planètes, et qui est reçue par un instrument qui décompose la lumière. Vous connaissez le phénomène de l'arc-en-ciel ? C'est la décomposition de la lumière blanche du Soleil dans toutes les couleurs. Donc c'est la partie visible, mais il existe aussi plusieurs parties qui ne sont pas visibles à l'œil humain. Donc vous connaissez les ultraviolets par exemple, les infrarouges, vous avez entendu parler de ça. Ce sont des domaines auxquels l'œil humain n'est pas sensible, mais par contre on peut concevoir des instruments qui sont sensibles dans ces domaines de longueur d'onde-là. Et l'intensité de lumière réfléchie en fonction de la couleur ou de la longueur d'onde, c'est le terme scientifique, transporte une information qui est sensible à la composition de la surface, à la composition moléculaire, donc au type de minéraux par exemple. C'est ainsi qu'à distance, on peut analyser, identifier le type de roche à la surface d'une planète.
Est-ce que ça a un nom précis, plus précis que astrophysicien, votre spécialisation ?
Oui, c'est une branche de l'astrophysique qui s'appelle la planétologie, donc l'étude des planètes.
Et du coup, pourquoi le choix de cette spécialisation précisément ?
Ah, ça remonte à il y a longtemps, quand la première fois où je me suis rendu compte que la Lune n'était pas juste un objet avec une forme bizarre dans le ciel, mais que c'était en fait une sphère, et que selon les phases de la Lune, on voyait parfois une partie de la surface illuminée, et parfois même la partie à l'ombre. Pas plus tard qu'hier, par exemple, on arrivait à voir la partie à l'ombre de la Lune. Donc le fait que ce soit un objet volumineux, que ce soit un autre monde dans le ciel, ça m'a toujours fasciné. C'est un petit peu comme ça qu'est née ma passion pour les planètes et le système solaire en général.
Et c'est quelles études qui mènent à ça ?
Il y a plusieurs études possibles. Dans mon cas, j'ai d'abord étudié les sciences de la matière, donc c'est de la physique. Ensuite, sciences physiques appliquées à la géophysique. Et c'est ainsi que j'ai commencé à me spécialiser un petit peu dans les planètes. D'abord avec des méthodes géophysiques terrestres, du type gravimétrie, sismologie, des choses comme ça. Et ensuite, je me suis spécialisé dans la télédétection, donc l'analyse d'images, de spectres, qui permettent donc d'analyser la composition à distance.
Précisons que vous vivez et que vous travaillez aux États-Unis. Vous venez d'ailleurs tout juste d'arriver en Ardèche au moment où nous faisons cette interview. Alors, pourquoi l'Ardèche a été votre destination ?
Oui, je suis parti aux États-Unis après mes études en France. J'ai grandi à Villeneuve-d'Aubert. Ma famille paternelle est native d'Aizac, qui est donc pas très loin de l'endroit où est tombée la météorite de Juvinas. Et donc oui, j'ai grandi à Villeneuve-d'Aubert. J'ai été à l'école primaire à Villeneuve, au collège à Villeneuve, au lycée à Aubenas. Et ensuite, j'ai commencé mes études universitaires à Valence. À l'époque, c'était un DUG, diplôme d'études universitaires générales en sciences de la matière. Ensuite, je suis allé à Grenoble pour une licence et une maîtrise, puis à Toulouse pour un DEA, sciences de la Terre et environnement, avec une spécialité dans les planètes telluriques, donc les planètes rocheuses du système solaire. Et ensuite, j'ai fait une thèse à Nantes, une thèse sur la composition des surfaces planétaires par spectrométrie.
Ok, mais donc vous avez tout fait en France, mais vous êtes parti aux États-Unis. Pourquoi vous êtes parti aux États-Unis ? Il n'y a pas de poste intéressant en France pour votre spécialisation ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Si, la recherche française dans cette spécialité est assez active. Mais j'ai eu une opportunité simplement à la fin de ma thèse. J'étais sur le point de chercher un contrat à durée déterminée du type post-doc. Et j'ai rencontré un chercheur américain qui venait de construire son propre institut de recherche et qui commençait à chercher du personnel, donc des jeunes chercheurs. En fait, il m'a simplement invité pour un séjour de 3 semaines, avant même que je soutienne ma thèse ici en France. L'endroit m'a plu puisque c'est une région rurale du nord-ouest des États-Unis, dans un petit village. Et puis, une fois qu'on a commencé à collaborer, il m'a simplement proposé un poste, tout simplement. Et donc, comme j'ai eu cette opportunité relativement facilement, j'ai accepté. Et j'y suis resté parce que ça m'a convenu. Étant né en Ardèche, donc avoir passé 18 années de ma vie dans la campagne, ça me plaisait bien de continuer de faire de la recherche et toujours vivre à la campagne. Ce qui était, je pense, moins possible en France. Même s'il y a des postes de chercheurs dans ce domaine en France, je pense que c'est plus compliqué de faire ce métier à la campagne en France.
En tout cas, vous profitez de votre retour en Ardèche pour nous faire une conférence. Alors, quel est le thème de cette conférence ?
Il s'agit de la météorite de Juvinas. En 1821, le 15 juin, à 15h, un objet brillant a été vu par la population locale, et ce qui a causé un grand bruit au sens propre du terme. Certaines personnes à Juvinas ont vu un objet noir tomber, et qu'ils ont, après quelques jours, retrouvé dans un champ de pommes de terre. Sur le moment, les gens ne savaient pas trop de quoi il s'agissait, mais plusieurs années auparavant, des chercheurs avaient déjà émis quelques hypothèses sur l'origine possible de ces cailloux qui tombaient parfois du ciel. On avait compris déjà à ce moment-là qu'il s'agissait de cailloux qui provenaient de l'espace, donc de météorites. En 1821, une météorite est tombée à Juvinas. Depuis, on utilise cette météorite, comme beaucoup d'autres, pour comprendre des choses sur le système solaire.
Et si on va à la conférence, on pourra la voir, la météorite, elle est encore là ?
La mairie de Juvinas a été assez active récemment pour promouvoir la météorite de Juvinas, en tout cas les connaissances sur la météorite de Juvinas. Donc il y a une petite exposition avec deux échantillons de la météorite qui ont été prêtés par le Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. Donc un échantillon montre la croûte, donc la surface extérieure de cette météorite, et un échantillon est un morceau de l'intérieur. Donc on peut les voir en exposition à Juvinas, en même temps que quelques posters qui illustrent ce que l'on connaît à propos de cette météorite, notamment ses origines dans le système solaire, qui remontent à l'astéroïde Vesta, qui a été exploré par la sonde spatiale Dawn.
Est-ce que vous êtes le seul intervenant pour cette conférence ou il y aura d'autres personnes avec vous ?
Cette fois-ci, je pense que ça va être juste moi. Nous avons fait appel à la population locale pour demander aux gens, aux familles qui sont originaires de Juvinas et des environs, s'il y a quelque part dans la mémoire orale, dans les traditions, des histoires qui se perpétuent depuis la chute de cette météorite. Parce qu'à l'époque, ça a surpris beaucoup de monde. Les gens avaient peur même de cet objet très brillant et très bruyant qui était tombé du ciel. Et donc je pense que pendant un moment, les gens devaient parler autour de ça. Mais depuis, je pense qu'une bonne partie de cette mémoire a été perdue. J'ai interrogé ma propre famille du côté paternel, qui était donc originaire d'Ezac, à 3 km de l'endroit où est tombée cette météorite. Et ce souvenir n'a pas été transmis de génération en génération. Mais on ne sait jamais. Si des gens de Juvinas ou des environs ont entendu parler d'histoires anciennes relatives à la météorite, ils seront libres d'intervenir, de raconter ce qu'ils savent. Quand j'ai rencontré le maire de Juvinas l'an passé, en préparant cette conférence, il m'a dit que parfois, quand des maisons anciennes étaient rénovées, donc complètement vidées de leur contenu en meubles, et, voire en plancher, il arrivait parfois qu'ils trouvent des boîtes contenant des pierres bizarres, et ils se demandaient si parmi ces boîtes qui avaient été collectionnées et rangées, mises de côté et puis oubliées, parmi ces pierres, parfois peut-être l'une d'entre elles pourrait être un échantillon de la météorite du Juvinas. Ce qui fait penser à ça, c'est que la météorite elle-même, quand elle est arrivée, pesait 91 kg. Elle a dû être coupée en deux pour pouvoir la sortir, parce qu'elle était enfouie à 1 mètre de profondeur. Elle est tombée dans un champ labouré, donc la terre était meuble. Il n'en reste aujourd'hui que 45 kg répertoriés. 45 kg qui sont répartis partout dans le monde. Le premier échantillon de la météorite de Juvinas que j'ai jamais vu, c'était dans une université au Nouveau-Mexique, aux États-Unis. C'était pas en Ardèche. Donc il y a des échantillons de la météorite de Juvinas qui sont partout dans les musées, dans les universités, les laboratoires scientifiques du monde. Mais il y a 45 kilos environ qui manquent. Et on suppose que certains de ces échantillons ont été récoltés, pris par les habitants. Peut-être certains ont été revendus. Mais il y a beaucoup de mystères qui perdurent sur cette seconde moitié de la météorite.
Comment vous pouvez savoir son poids total en n'ayant qu'une partie de la météorite ?
Parce qu'à l'époque, il a été mesuré. À l'époque, quand la météorite a été trouvée et extraite, elle a d'abord été coupée, sortie, puis chacun des deux morceaux a été pesé. Mais nous savons le destin d'une moitié qui a été pris par un géologue, qu'il a ensuite partagé avec différentes institutions scientifiques. En revanche, l'autre moitié, nous ne savons pas ce qu'elle était devenue, nous avons perdu sa trace. Donc oui, l'histoire pour cette seconde moitié s'arrête là.
Est-ce que pour la conférence, vous visez un public particulier, peut-être plutôt les jeunes ?
Les jeunes et aussi la population locale. La commune de Juvinas essaie de promouvoir les aspects culturels sur cette météorite et les connaissances scientifiques qui vont avec. Je pense que la communauté de communes d'Obona a été active pour organiser des événements astronomiques, notamment un qui, se déroule annuellement, qui s'appelle les Astronomades, qui invite de nombreux scientifiques de partout en France. En général, ce genre de manifestation scientifique accueille beaucoup de public, parfois qui vient d'assez loin, et en général, pas souvent, malheureusement, des habitants de Juvinas et des environs. Cette conférence, le 20 avril, est vraiment faite pour les habitants. On essaie de leur faire prendre conscience qu'ils ont chez eux une histoire particulière et qui nous apprend des choses sur le système solaire.
Alors, petite question pratique, est-ce qu'il faut s'inscrire pour participer à la conférence ou c'est entrée libre ? Il y a un nombre de places limité ou pas ?
C'est entrée libre et gratuite. La salle n'est pas bien grande, mais je pense qu'elle peut accueillir environ 50 personnes. C'est la salle du conseil municipal qui peut être agrandie vers ce qu'ils appellent l'espace Vesta, c'est-à-dire là où est exposée la météorite de Juvinas.
Alors, la conférence a lieu le 20 avril à Juvinas, à 18h. Peut-être, pour conclure, vous pouvez nous faire une petite avant-première de cette conférence où vous nous apprenez quelque chose. Une petite chose sur la météorite que vous n'avez pas déjà dit, parce qu'on en a déjà beaucoup dit.
Alors, cette météorite de Juvinas est très intéressante parce que c'est une des rares météorites dont on connaît la provenance. Nous connaissons l'objet du système solaire, et ce grâce à la spectrométrie. La spectrométrie permet d'analyser la composition de la surface des planètes à distance. Et dans les années 70, on s'est aperçu que le spectre de la météorite de Juvinas et de ses semblables, parce qu'il y a d'autres météorites un petit peu du même type qui ont été récoltées sur la Terre, ressemble fortement au spectre d'un astéroïde de la ceinture principale qui s'appelle Vesta. Et c'est entre autres pour cette raison que la sonde spatiale Dawn a été lancée en 2007. C'est une sonde spatiale américaine, mais avec des instruments européens aussi. Une caméra haute résolution allemande, un spectromètre italien et un spectromètre gamma américain. Cette sonde spatiale est entrée en orbite en 2011. Elle est restée un an environ autour de Vesta. L'idée d'envoyer la sonde spatiale Dawn vers Vesta a été motivée par le fait qu'on s'est rendu compte, grâce à des images à haute résolution par le télescope spatial Hubble, que le pôle sud de Vesta avait sans doute subi un gros impact. L'hémisphère nord de Vesta est circulaire, sphérique, comme celui d'une planète, alors que l'hémisphère sud est relativement pointu, ce qui semble indiquer qu'il manque de la matière à cet endroit-là. Et le fait qu'il manque de la matière signifiait sans doute que l'objet avait subi un impact qui avait enlevé de cette matière à l'origine donc des météorites classées dans la même catégorie que la météorite de Juvinas. Donc la météorite de Juvinas provient sans doute de cette zone, cette région de l'astéroïde Vesta. Donc ça faisait deux raisons en fait d'aller explorer d'un petit peu plus près cet astéroïde. Le fait que l'on ait des échantillons de Vesta sur la planète Terre et aussi qu'on ait une preuve d'un impact à la surface de Vesta qui aurait pu produire ces météorites.
Merci beaucoup. On réserve le reste pour le 20 avril à Juvinas. Merci pour cette interview.
Merci Maë et bienvenue à tous à Juvinas le 20 avril.
Merci aux auditeurs pour l'écoute et bonne journée à tous.
La Vagabonde, le monde est sur vos ondes.